Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 9 décembre à l'occasion de la Journée nationale de la laïcité. Radio Ondaine vous propose une discussion, temps d'échange, avec des élèves de seconde et de première en CAP au lycée Adrien Testu. Ces élèves-là réfléchissent autour de cette question de la laïcité. Ils y réfléchissent à l'occasion de cette émission, mais ils y réfléchissent aussi tout au long de l'année. Et pourquoi donc ? Parce que dans leur carnet de correspondance à chaque rentrée scolaire, on leur propose de lire et surtout de signer la charte de la laïcité. Alors une charte de la laïcité qui est proposée à quasiment tous les établissements scolaires. Et cette charte de la laïcité, on la lit une fois, on peut la lire aussi avec ses parents. Il est proposé aux parents de prendre connaissance de cette charte de la laïcité. On peut avoir toujours des questionnements, des interrogations quant à cette charte-là. Alors avant de découvrir pour les auditeurs de Radio Ondaine cette charte de la laïcité, on est avec Madame Mathieu qui est donc CPE au sein de ce lycée Adrien Testu. Quel est le principe finalement de lire une charte de la laïcité ?
Bonjour. Alors, la charte de la laïcité est proposée dans les carnets de liaison pour tous les élèves en début d'année. Donc, il est intégré au règlement intérieur. La charte doit être signée par les parents, lue en classe et lue à la maison et signée par les parents. La charte de la laïcité est importante car ça rappelle les valeurs qu'on a en commun dans l'établissement, que ça soit pour les élèves et tous les personnels de l'établissement. Le personnel doit être neutre. Les personnels de l'éducation, nous sommes fonctionnaires et nous devons être neutres par rapport à ça. Donc voilà, ça nous rassemble et ça permet le bien vivre ensemble. Donc c'est important que tous les élèves en aient conscience.
Alors il est important de rappeler cette notion du personnel neutre, car il y a quelques jours, les enseignants ont été formés à cette question de laïcité. On en parlera dans cette émission. Alors moi je propose à deux élèves volontaires de nous lire les 14 articles, me semble-t-il, de cette charte de la laïcité. Pour les auditeurs qui écoutent cette émission-là, on part d'un principe d'anonymat de tous les élèves. On ne dit pas les prénoms, on ne dit pas les noms. Les élèves interagissent comme ça, sans qu'on puisse savoir qui ils sont. C'est le principe de cette émission-là. Alors, c'est cette charte de la laïcité, on va l'attaquer.
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.
La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre et l'égard des convictions religieuses et spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État.
La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites d'ordre public.
La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun, avec l'égalité et la fraternité de tous, dans le souci de l'intérêt général.
La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes.
La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix.
La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée.
La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves de la limite du bon fonctionnement de l'école, comme du respect des valeurs républicaines et pluralisme des convictions.
La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre.
Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que les autres principes fondamentaux de la République. Ils veillent à leur application dans le cadre scolaire.
Les personnels ont un devoir strict, neutralité. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.
Les enseignements sont laïques afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible de la diversité des convictions du monde ainsi qu'à l'étendue et la précision des savoirs. Aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme.
Nul ne peut se prévaloir de son apparence religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République.
Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces précisées dans le règlement intérieur sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou de tenues dans lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdit.
Par leur réflexion et leur activité, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.
Alors, merci pour ces 15 articles et non pas 14. Alors, dans cette émission, on a invité aussi Abdelkader Relan, qui est écrivain, directeur d'une mission locale. Bonjour Abdelkader Relan.
Bonjour.
Alors, à l'écoute de cette charte de la laïcité, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait que dans un établissement scolaire, une école de la République, ce document est inscrit aussi dès les premières pages de ces carnets de correspondance et les parents sont aussi invités à lire ce document-là. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah d'abord, c'est vrai que normalement, on n'aurait pas, théoriquement, on ne devrait pas avoir à signer une charte parce que ces principes qui sont évoqués dans la charte, c'est les principes nécessaires au bon vivre ensemble, entre guillemets. Ils sont naturels, en fait. C'est des choses qu'on doit appliquer naturellement, qu'on doit faire naturellement, le respect de l'autre, la liberté de conscience, de nous croire ou de ne pas croire. C'est des choses qui sont essentielles dans notre liberté individuelle. Mais bon. Malheureusement, l'actualité a montré qu'il fallait quand même faire des rappels, qu'il fallait quand même qu'on puisse tous se retrouver autour d'une base. Et la base, elle est aujourd'hui, en tout cas. Alors, c'est vrai que la charte de la laïcité, elle existe dans les écoles, mais pas que. Elle existe à l'hôpital, elle existe en mission locale, elle existe dans beaucoup d'endroits aujourd'hui pour rappeler, tout simplement rappeler des valeurs essentielles, hein, des valeurs qui font que à un moment donné, on doit se respecter les uns et les autres, parce que on a galvaudé un peu la laïcité, je trouve. On a pensé que la laïcité aujourd'hui, elle était orientée contre une religion, alors que ce n'est absolument pas le cas. La laïcité, c'est le ciment de la République. C'est-à-dire qu'elle permet à toute personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit son origine, quel que soit son rapport entre guillemets aux autres, de pouvoir vivre ensemble. Et ça, pour moi, c'est effectivement fondamental. On peut le voir, hein, je veux dire que la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, aujourd'hui à l'école, vous avez cette possibilité d'ouverture. C'est-à-dire que à l'école, on ne vous enseigne pas d'orientation vers les religions, et ça c'est exceptionnel, vraiment. Dans beaucoup de pays, c'est pas le cas. On a une chance incroyable en France d'avoir la laïcité, hein, parce que vraiment, peut-être vous en avez pas forcément conscience. Moi, j'ai la chance, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai vu que dans d'autres pays, malheureusement, ce concept de laïcité n'existe pas. Et ce concept, il est éminemment important parce que il nous permet justement de croire ou de ne pas croire, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de se dire que la religion n'est pas héréditaire. Une religion, c'est pas héréditaire. Voilà, concrètement, c'est pas parce qu'on est né dans une famille musulmane ou dans une famille juive ou dans une famille catholique qu'on est obligatoirement sujet à cette religion. Non, la laïcité nous apprend justement à faire le choix, choisir sa religion ou pas, et de faire ce choix. Et parfois on l'a pas forcément, et ça c'est hyper important d'avoir ce choix, et l'école nous permet de faire ce choix. Voilà.
Alors merci, on prendra des réactions d'ici quelques instants, hein, pour vous les élèves dans ce public là pour que vous participiez, mais on va quand même poser aussi d'autres fondations et les fondations aussi et les bases de cette discussion. Lorsqu'on parle de l'école, cette charte de la laïcité à destination des élèves et des parents, on peut prendre ça comme quelque chose de contraignant, une contrainte. Mais il faut savoir qu'un établissement scolaire, c'est un grand nombre de personnes. Et le personnel a été formé aussi très récemment autour de ces questions de la laïcité. Alors, Madame Mathieu, CPE, cette formation-là, de votre point de vue, pourquoi elle existe et qu'est-ce qui se passe en fait dans ce déroulé de cette journée que vous avez eue il y a quelques jours?
Alors, le rectorat donc nous propose cette formation sur la laïcité pour tous les personnels de l'établissement. Donc, nous l'avons faite le 1er décembre, donc avec les professeurs aussi ici présents. C'est sur une demi-journée. Donc voilà, ils sont venus nous présenter. C'est sur le thème du pareil, comme une discussion générale, comme on fait maintenant, qui nous a beaucoup apporté. On est sorti de cette formation, je pense, avec beaucoup plus de connaissances et de réponses qu'on peut apporter aussi à nos élèves. Parce que même si nous, personnel de l'établissement, nous connaissons la laïcité et nous la respectons, on a quand même aussi certaines questions et peut-être aussi des fois certaines situations où nous sommes un peu démunis. Donc voilà, ça nous a donné quelques pistes pour pouvoir bien répondre aussi à nos élèves.
La charte de la laïcité qu'on a lue tout à l'heure, elle correspond à comment elle a été écrite celle-ci. Alors c'est nationalement, hein, me semble-t-il, mais ce sont des articles qui émanent de la République française dans une version un peu simplifiée, facile à comprendre. Quand vous la lisez, quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous avez comme analyse et sur finalement les points qui doivent en ressortir ici?
Moi, le gros point que je ressors sur la charte de la laïcité, c'est surtout que ce que les élèves devraient retenir, c'est qu'elle permet l'égalité de tous. Et ça, je pense que les élèves n'ont pas forcément conscience. Et pour moi, voilà, cette charte, elle permet qu'il y a la liberté de conscience, il y a la liberté de croire, il y a la liberté de beaucoup de choses, mais il y a surtout, elle permet l'égalité de tous envers les élèves. Et ça, je pense que dans un établissement scolaire, c'est le plus important.
Alors l'égalité, ça c'est une question importante, et c'est aussi la République française, liberté, égalité, fraternité. Alors pour poursuivre un peu à la découverte d'Abdelkader Relan, vous retrouvez aujourd'hui face à un public de jeunes, de lycéens, vous avez l'habitude de faire ça. Quel a été le chemin jusqu'ici? Est-ce que vous avez grandi dans cette volonté du vivre ensemble? Est-ce que votre vie a pris des routes différentes pour vous amener jusqu'ici?
Non, en fait, le sujet de mon premier roman qui s'appelle En pleine face, c'était un roman autobiographique et je racontais dans ce roman que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 13-14 ans, j'étais raciste, j'étais homophobe et j'étais antisémite. Voilà, donc j'avais la totale. J'étais raciste parce qu'en fait, je me considérais comme algérien à l'époque, hein, donc vous pensez que c'est dans les années 80, et que en fait, on savait pas qu'on était français aussi, donc on était raciste. Il y avait un petit peu, c'était du racisme, je te pousse, tu me repousses. C'est-à-dire, on avait l'impression que les Français, parce qu'à l'époque, on se considérait pas comme Français, les Français ne nous aimaient pas, et donc on ne les aimait pas. Il y avait voilà ce racisme, je te pousse, tu me repousses. On était antisémites parce qu'on nous avait appris, quand j'étais plus jeune, malheureusement, ça perdure encore aujourd'hui. On nous avait appris que les musulmans n'aiment pas les juifs et que les juifs n'aiment pas les musulmans, ce qui est complètement faux. Mais on nous avait appris ça et naturellement, j'ai grandi en tout cas avec une animosité contre les juifs. Et puis l'homophobie, parce que ben voilà, dans un quartier, on se disait que l'homosexualité c'était pas moral, ça faisait pas partie de la religion. Enfin bref, tout ce que vous connaissez. Hein. Et donc voilà. Et je suis sorti de tout ça. D'abord grâce au sport, j'ai eu la chance de faire du sport à un haut niveau et j'ai fait de la boxe, comme mon nez l'indique. Je suis allé un jour dans une salle de boxe et j'ai commencé à m'entraîner. Et il y avait Cecilio, son prénom l'indique, il était d'origine espagnole. Il y avait Yvon, qui était français sur plusieurs générations, et puis Yoni, qui était juif. Et en fait, j'ai commencé à boxer avec eux, à faire des entraînements avec eux, à grandir avec eux. Et puis, ils sont devenus mes amis. Et quand on partait faire des combats partout en France, Cecilio, qui se signait chaque fois avant de combattre, était très croyant. Ben, quand il boxait un musulman, moi, je tenais avec le catholique parce que le catholique, c'était mon ami avec qui je grandissais. Yoni, juif, pareil, pratiquant. Quand il faisait un combat contre un musulman, je tenais avec le juif. Parce qu'en fait, le juif, je le connaissais, c'était mon ami. Avec qui je combattais tous les jours, on faisait des entraînements, j'allais chez lui, c'était mon ami. Donc voilà, et donc en fait, si vous voulez, toutes les questions de religion, de couleur de peau, de communautarisme, tout ça c'est tombé à l'eau à partir du moment où j'avais des personnes que je connaissais qui étaient mes amis. Et ça a complètement changé la donne. Et puis après, l'homophobie, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup plus tard, à l'âge de 20 ans. Je suis sorti de l'homophobie, j'avais 22, 23 ans quand même. Et j'ai rencontré une personne qui était homosexuelle et qui un jour m'a avoué qu'elle était homosexuelle. C'était une amie, une très très bonne amie. Et j'ai compris ensuite, j'ai compris assez naturellement que l'homosexualité, c'était pas un choix, c'était naturel. Les gens qui étaient homosexuels, c'est pas un choix, c'est naturel. Et de là est venu mon engagement pour lutter contre tous ces fléaux à travers l'écriture, à travers les conférences. Mais c'est pas quelque chose qui est simple en fait. Ce qu'il faut retenir, en tout cas ce que je retiens aujourd'hui, c'est que avant je raisonnais par émotion et par beaucoup avec l'émotion, notamment l'émotion qui était liée à ma religion. Et maintenant, je raisonne avec la raison, tout simplement. C'est la raison qui prend le dessus sur l'émotion. Et ça n'empêche pas que je peux être religieux, mais la raison prend le dessus. Et la raison, c'est ce qui est le plus important, c'est que si vous êtes toujours dans la raison et jamais dans l'émotion, vous allez tout de suite naturellement comprendre que rejeter quelqu'un parce qu'il ne vous ressemble pas, parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'a pas la même orientation sexuelle, c'est bête. C'est idiot même, et ça a aucune raison, voilà. Et c'est pour ça, ce chemin, il a été long, mais aujourd'hui, je suis absolument fondamentalement persuadé que le vivre ensemble est possible et naturel, et que on doit pas se ranger dans un camp religieux, communautaire. On doit jamais se ranger dans un camp, parce que globalement, aujourd'hui, j'ai une chance incroyable, c'est que quand je regarde les gens. Je ne vois plus leur couleur de peau, je ne vois plus leur religion, je ne vois plus leur prénom, tout ça, je vois plus ça. Je vois juste des êtres humains. Et mon rapport à vous, c'est d'abord et surtout parce qu'on est des êtres humains et j'aime les gens, j'aime les personnes et peu importe après, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, voilà. Ça, c'est hyper important et c'est fondamental dans ma vie en tout cas.
Alors effectivement, on a pris la parole et vous avez évoqué ces élèves-là qui sont en face de nous. C'est un espace d'échange que l'on souhaite instaurer. Je vous ai rencontré pour vous demander à réfléchir à ces questions-là. Vous avez travaillé aussi avec vos professeurs. Alors il est difficile de prendre la parole, mais moi je vous invite à poser toutes les questions qui vous passeraient par la tête, auxquelles pourra répondre votre CPE ou Abdelkader Relan, tout en sachant qu'on n'a bien sûr pas toutes les réponses. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour débuter un peu ces échanges-là?
Bon, alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la laïcité, elle agresse les religions?
Non, je pense que c'est juste pour notre liberté à tous et qu'on puisse croire ou pas croire et c'est tout.
C'est pour qu'on soit tous égaux, enfin qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les musulmans. Enfin, vu qu'on est dans un endroit où il y a la laïcité,
oui.
Et qu'on ne devrait pas se sentir différent des autres, c'est ça.
Alors peut-être que moi je vais me faire le porte-parole, notamment sur les signes distinctifs religieux, et c'était le gros débat de ce début d'année, avec des vêtements, avec les abayas, et c'était un peu ce qui monopolisait l'attention de tous les médias. Je pose cette question-là autour de ces abayas et de ces vêtements religieux qui peut-être ne l'est pas, et là on parle de mode, et qu'effectivement on peut se sentir heurté en se disant qu'il y a ce questionnement sur le voile, parce qu'on parle de la religion musulmane, et maintenant ces vêtements-là, les abayas, alors que effectivement ce sont aussi, c'est une façon de vivre et de définir dans une société et de sa personnalité. Et ça, comment vous, Abdelkader Relan, vous l'avez vu de l'extérieur?
Alors c'est marrant parce que je fais partie d'une commission de lutte contre la radicalisation et en début d'année 2023, parce que je fais beaucoup d'interventions dans toute la France, hein, voire à l'étranger, mais je fais vraiment beaucoup d'interventions dans beaucoup de lycées et collèges de France, et j'avais fait une remontée en disant je vois beaucoup de abaya dans tous les collèges et lycées de France. Vraiment, ça m'avait étonné. Je me suis dit, tiens, c'est nouveau. Je comprenais pas pourquoi cette tenue arrivait dans les établissements scolaires. Bon, après, c'est que mon avis. Hein. Je dis pas que j'ai raison. Hein. Mais en tout cas, j'avais été un peu alerté. Puis j'avais dit ça dans une réunion. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on a commencé à voir que la abaya a été interdite dans les établissements scolaires et tout ça. Et en fait, moi personnellement, ça me dérange pas que des jeunes filles s'habillent en abaya. Ça me dérange pas parce qu'en plus, c'est vrai, c'est pas une tenue, pour moi en tout cas, c'est pas une tenue religieuse. Mais en même temps, après, la difficulté que ça peut poser, c'est que ça peut créer des dissensions, ça peut créer une forme de communautarisme. Je vais essayer de vous expliquer. Ce que je n'aime pas, moi personnellement, à titre personnel, vraiment je vous le dis avec beaucoup de sincérité, c'est que quand je vais dans des écoles, quand je vois des groupes qui sont plutôt maghrébins, plutôt là-bas des groupes de subsahariens, là-bas plutôt des groupes de blancs, et qu'on se mélange plus. Vous voyez, ça, moi, ça m'attriste profondément, parce que je me dis, mais à un moment donné, peut-être qu'on a loupé quelque chose. Normalement, on doit tous se retrouver autour des mêmes valeurs, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. On doit se retrouver autour de ça, et malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on voit. Et là, Baya, je pense que nos politiques ont peut-être pensé comme ça. Et je vous dis, hein, je ne partage pas forcément cette interdiction, hein. Mais je pense qu'ils ont raisonné en se disant, ça continue, ça contribue à créer une sorte de communautarisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on reconnaît les gens, on les reconnaît, voilà, parce qu'on se dit, tiens, s'ils portent des abayas, c'est que ça doit être des musulmans, et donc on les, d'une certaine manière, on les catégorise. Et c'est peut-être pour ça que l'abaya a été interdite. En même temps, je vous le dis, hein, moi perso, je suis pas forcément pour, mais c'est une explication que je donne. Mais toujours est-il que je suis contre toute forme de communautarisme, vraiment. Je suis contre toute forme de communautarisme. Moi, je me reconnais que dans une communauté. C'est la communauté nationale. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de défendre, parce que demain, c'est dans cette communauté-là que vous allez pouvoir vous épanouir. Voilà, c'est juste ma petite parenthèse sur ça.
Du coup, moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais après, je trouve qu'en 2023, la laïcité, c'est juste un mot, enfin, elle n'est pas vraiment... je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'on n'est pas libre de pouvoir parler de religion comme on en a envie, sans qu'on porte un jugement sur nous, ou alors on ne peut pas, par exemple, porter une abaya. Une abaya, ce n'est pas une tenue religieuse, c'est une robe longue, large, avec des manches. En 2023, les chrétiennes peuvent pas porter ça, les musulmanes peuvent porter ça, excusez-moi. Les juifs, c'est une robe. Genre, c'est comme si on portait un pantalon. Donc, je vois pas pourquoi c'est interdit. Et aussi, genre, les femmes qui portent le voile, c'est pas... il y en a qui vont dire oui, c'est des radicalistes, tout ça. Mais c'est pas un foulard qui doit nous faire porter un jugement sur une personne en dessous de son voile. C'est un être humain comme tout le monde.
Oui, c'est vrai que t'as parfaitement raison. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Si tu vas en Angleterre, par exemple, le voile est porté naturellement. Voilà. Après, la France a fait ce choix. Nos politiques ont fait ce choix de dire le voile est interdit. Alors, moi, je suis pas contre le port du voile. Hein. C'est pas du tout. Je suis pas du tout dans cette optique-là. En même temps, je suis content que le voile ne se porte pas à l'école. Je vais te dire, c'est une réflexion que j'ai mis du temps à avoir, parce que je me suis posé longtemps la question de me dire, mais pourquoi, tu vois, en Angleterre, aux États-Unis, les filles portent le voile et tout ça. Mais quand même, moi, j'ai vu des gamines de 8 ans, 9 ans, 10 ans, avec un voile. Et là, on va se le dire franchement, elles le portent pas par conviction. C'est à un moment donné les parents qui obligent les enfants à porter le voile. Et ça, moi, par contre, pour le coup, ça me gêne. Et je suis content de ne pas avoir envoyé mes enfants, parce que moi, je suis trop vieux pour d'avoir envoyé mes enfants dans une école où il y avait des filles, des petites filles qui portaient le voile. Voilà. Je suis content de ne pas avoir vécu ça. Après, c'est à titre personnel. Hein. Et parce que je pars d'un principe, et encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, la religion, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui nous attache, si on veut croire ou pas croire d'ailleurs. Mais le fait de croire ou pas, c'est un choix perso. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'héréditaire. On doit pas être. Si vous êtes religieux par hérédité, je trouve que c'est triste. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, il est plus intéressant de faire une recherche, de prendre le temps de faire une recherche et ensuite de choisir ou pas sa religion.
Si je peux intervenir, moi, mon avis aussi. Alors, il y a eu des lois. Hein. L'école est devenue laïque. C'est la loi de Ferry en 1982. Il y a des lois. Mais il y a aussi, comme vous dites, où nous, en tant que personnel, pour nous, c'est important que vous arriviez sans signe religieux. Parce qu'en fait, vous arrivez en tant qu'individu, en tant qu'élève. Et nous, on n'a pas à savoir à connaître votre religion. Pour pouvoir être égal avec vous tous, je n'ai pas à connaître votre religion. Donc, de ne pas porter de signe qui me permettrait de reconnaître votre religion, eh ben, ça nous aide et ça permet à tout le monde d'être vraiment égaux dans l'établissement. Comme vous, vous n'avez pas à connaître ma religion pour ne pas avoir peut-être de préjugés ou un avis dessus. Voilà. Moi, c'est mon avis là-dessus.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est bien que l'école soit laïque, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous porteriez un jugement sur nous si on porte un signe religieux. Enfin, ça change rien. Dans tous les cas, on est censés tous être égaux et tous pouvoir pratiquer notre religion.
Alors, nous, en tant que fonctionnaires de l'État, on ne portera pas de jugement. On est dans l'éducation nationale, on n'en a pas. Mais après, on est des êtres humains. Sans parler de jugement, si on a une religion différente, peut-être qu'il y a un moment, il y a des choses sur lesquelles on ne se comprendra pas. Et ça ne peut pas arriver. On n'a pas à le savoir. Comme ça, le terrain est neutre. Tout simplement.
Et au-delà de l'école, toute la question de ce mot, qui est les préjugés. C'est-à-dire que l'on juge avant même d'avoir partagé avec quelqu'un. Et l'école cette notion de laïcité enlève ces préjugés. Une autre réaction, une autre question.
Je ne sais pas si je peux dire ça, parce que moi, c'était un peu pour revenir sur la question qui a été posée à Monsieur Abdelkader. Moi, en fait, je voulais juste donner mon avis et aussi un peu revenir sur la réponse. Pour moi, l'interdiction de la baïa, c'était... En fait, ça représentait un peu ce qui est dit comme la laïcité dans notre pays, parce que on dit qu'on est dans un pays laïque, qui accepte toutes les religions, etc. Mais pour moi, c'est... Je sais pas si je peux dire ça, mais pour moi, c'est islamophobe, parce qu'il y a encore beaucoup de choses chrétiennes qui sont dans le pays, comme des jours chrétiens qui sont fériés, par exemple des repas de Noël à l'école, etc. Et il y a pas de choses comme ça pour les autres religions. Du coup, pour moi, interdire la baïa, ça, c'était encore quelque chose de, d'islamophobe, parce que si on se renseigne, on se rend compte que en fait, la baïa, c'est pas du tout religieux, c'est un vêtement culturel, ça l'a toujours été. Certes, après, il y a beaucoup de jeunes filles musulmanes qui sont mises à le porter, mais il y a pas que. Et aussi, du coup, c'était pour revenir sur la réponse, comme quoi. Si des filles portent par exemple la baïa, ça ferait du communautarisme, etc. Pour moi, ça veut rien dire, parce que si par exemple des Arabes ont envie de traîner ensemble, qu'elles soient en abaya ou pas, enfin, elles vont traîner ensemble, ça va rien changer. C'est pas une tenue qui va changer les choses. Voilà.
Alors, juste pour revenir, la baïa n'est pas interdite en France. C'est dans l'établissement scolaire. Voilà.
Alors, tu vois ce côté, c'est bien parce que je suis content que tu dises qu'effectivement tu sens que c'est islamophobe. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration et jeunes musulmans qui ne sont pas issus de l'immigration, qui sont nés en France, beaucoup de jeunes musulmans, ou en tout cas se revendiquant musulmans, parlent ainsi. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, est-ce que ma question elle était pas innocente quand je disais, est-ce que vous pensez que la laïcité agresse une religion en particulier, parce que globalement quand je fais le tour de la France, les musulmans pensent que aujourd'hui la laïcité leur est dirigée contre eux. C'est pas forcément le cas. Je pense très franchement que c'est pas le cas. Simplement, tu l'as dit assez naturellement. D'abord, il faut partir d'un principe, c'est que la France est un pays historiquement judéo-chrétien. Ça, il faut aussi l'entendre. Et il y a des références au catholicisme qui sont très fortes, hein. Vous savez, vous voyez beaucoup d'églises, vous ne voyez pas beaucoup de mosquées, vous voyez pas de minarets, même si c'est pas interdit, mais vous n'en voyez que très peu, mais vous voyez beaucoup d'églises. Donc les églises, elles veulent dire aussi quelque chose, elles parlent de l'histoire de la France. Donc il faut aussi prendre en compte cette histoire-là. Le calendrier grégorien, bien évidemment, il est à connotation religieuse, mais c'est historique. Et ce calendrier, maintenant, il est utilisé quasiment dans tous les pays, même dans des pays musulmans où on utilise le calendrier grégorien. Donc les choses changent. Par exemple, aujourd'hui, il y a je sais plus quelle ville où on met une crèche dans une mairie, et il y a un collectif qui a porté plainte parce que normalement, on doit pas avoir de crèche, parce que c'est connoté avec des aspects religieux. Les choses changent, mais ça met du temps. Comme pour tout. Donc ça c'est déjà le premier élément. Ça change. Normalement aujourd'hui, vous voyez de moins en moins de crèches. Avant c'était, moi quand j'étais gamin, j'en voyais partout. Et à la limite ça me gênait pas. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins parce que, voilà, vous l'avez rappelé, le Kferi a rappelé, voilà, aussi les fondements de la laïcité et les choses changent. Mais ça met du temps et ça mettra du temps. Après, sur, t'as raison quand tu dis que la abaya va rien changer. Moi, je sais, la abaya ne me dérange absolument pas. Je dis juste que je pense que nos politiques ont raisonné comme ça, c'est-à-dire de se dire ça va, entre guillemets, accentuer encore un peu plus le communautarisme. Parce que c'est un fait, il n'y a pas de vêtements musulmans, ça n'existe pas, les vêtements musulmans. De la même manière que, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, il n'y a pas de prénoms musulmans, ça n'existe pas, les prénoms musulmans. Il y en a quelques-uns, il y a les deux, trois prénoms qui finissent par Din, donc Din, la religion, mais il n'y a pas de prénom musulman, ça n'existe pas. Vous savez, souvent quand des gens se convertissent, ils changent leur prénom, ils prennent un prénom musulman, c'est nul, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de prénom musulman. Voilà, je vous le dis, si pour certains, si vous ne le savez pas. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que on doit toujours faire attention, voilà, on doit toujours faire attention aussi de ne pas créer les bases du communautarisme. Moi, je encore une fois, je vous le dis, hein, c'est à titre vraiment vraiment personnel. Le communautarisme, je pense que c'est pas quelque chose qui vous rend service, qui nous rend service ou qui rend service à qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a d'autres. Quand je parle de communautarisme, c'est pas forcément le communautarisme musulman ou arabe ou maghrébin, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, vous avez des communautarismes aussi avec l'ultra droite, par exemple. Vous avez vu, il y a eu des manifestations à Lyon et puis à Paris avec des gens qui sont de l'ultra droite. C'est une forme de communautarisme aussi. C'est-à-dire que entre guillemets, on se met contre nous. On a les mêmes pensées, les mêmes aspirations, les mêmes idées. Et quand on est ensemble comme ça, c'est contre-productif. Vous voyez, je pars toujours d'un principe, je dis toujours que la certitude, c'est la mise en arrêt de l'intelligence. C'est-à-dire que si vous avez des certitudes, à un moment donné, votre cerveau, il arrête de réfléchir. Voilà. Et je vais vous donner juste une image, après je vous redonnerai la parole. La certitude, je vais vous expliquer ce que c'est la certitude. La certitude, c'est, faut imaginer que votre cerveau, c'est une maison. D'accord? Votre cerveau, c'est une maison. Et cette maison, la certitude, c'est une maison où tout est fermé. Les volets sont fermés, les fenêtres sont fermées, tout est fermé. Ben, ça pue le renfermé dedans. Voilà. À l'intérieur de cette tête, ça pue le renfermé. C'est pas bon, ça sent pas bon. En revanche, le doute, le droit au savoir, c'est une maison où tout est ouvert. La porte est ouverte, les fenêtres sont ouvertes, les volets sont ouverts. Et les choses rentrent. Donc c'est agréable à l'intérieur, ça sent bon parce qu'il y a de l'air qui rentre. Et quand parfois il y a quelque chose de mauvais qui rentre, on a juste à le sortir. Voilà, c'est ça, votre cerveau il doit raisonner comme ça. Il faut imaginer votre cerveau comme une maison et de prendre les bonnes informations et de jeter les mauvaises. Mais ne pas rester avec des informations qui restent et dont vous êtes certaine.
Alors, avant d'avoir une autre réaction ou une autre question, l'idée c'était aussi de rappeler une date, hein, c'est 1905, c'est la loi de séparation de l'État et de l'Église en France. C'est vieux, mais pas tant que ça, parce que ça a bientôt 120 ans, mais il y a toute une histoire aussi du pays qui a été construit par rapport à la religion catholique, chrétienté, etc. Et qu'effectivement, il faut prendre aussi en compte ça, c'est qu'on voit beaucoup d'églises, sans commenter, mais ces églises-là, c'est un patrimoine historique, mais qu'effectivement, il faut prendre bien ça en compte que il y a l'histoire d'un pays, les constructions, on a des châteaux aussi en France, etc. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ?
N'hésitez pas, franchement, à poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Au contraire, hein. Moi, je veux vraiment bien débattre avec vous hein, par rapport justement à ce rapport avec le communautarisme, à ce rapport avec la religion. Pour moi, personnellement, la religion, ça doit être quelque chose qui réside entre moi et entre vous, en tout cas, et Dieu, si on croit en Dieu, bien évidemment. Mais c'est quelque chose de très personnel et qui forcément n'a pas d'incidence sur mon rapport à l'autre. C'est-à-dire que moi, vous savez, quand je fais des conférences avec des évêques, hein, il m'arrive de faire des conférences avec des évêques, la religion ne me pose aucun souci. Voilà. Et surtout aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de certitude. Et ce qui est fort, c'est que parfois, moi, je me considère comme musulman. J'ai pas de mal à le dire. Je l'ai déjà dit. Je le dis dans mes livres. Je le dis partout. Je me considère comme musulman, mais je n'ai aucune certitude. C'est ma foi. Mais ma foi, elle s'arrête à moi. Ma vérité, elle s'arrête à moi. Elle ne s'impose pas aux autres. Et dans ma vie de tous les jours, ma religion, elle est personnelle. Là, je vous en parle parce que c'est le sujet qui fait que je vous en parle. Mais ce qui est hyper important, c'est que quand je débat avec un évêque, jamais j'irai lui dire « mais tu te trompes ». Non. Je n'ai que ma vérité, si ça se trouve, lui a sa vérité. Et qui de nous deux a raison ? Ça, je ne sais pas. Et c'est ça aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours mettre de la raison dans sa manière d'envisager les choses. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on met de la raison et quand on met pas d'émotion, ben on a plus de facilité à comprendre les choses. Il faut toujours prendre de la hauteur, toujours analyser les choses avec beaucoup de hauteur, parce que comme ça, on arrive à voir plus facilement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et je vous l'ai dit, hein, quand j'étais raciste, homophobe et antisémite, c'est parce que j'étais aussi dans l'émotion, dans le communautarisme, désolé de le dire, hein, mais je l'ai écrit dans mon livre. Mais c'était ça aussi. J'ai grandi dans une cité où tous mes copains, on était racistes, homophobes et antisémites. Donc c'est pour ça que je vous dis, le communautarisme, c'est pas bon, parce que on était tous persuadés les uns les autres et on renforçait notre croyance. À partir du moment où j'ai rencontré d'autres personnes qui ne raisonnaient pas comme moi, eh ben ça m'a permis de m'ouvrir et de réfléchir autrement. Voilà.
Et projeter derrière une série de un diaporama avec une série de questions qui ont été proposées lors de cette formation sur le personnel de cet établissement et de ce lycée. Alors Madame Mathieu, effectivement, vous avez souhaité le projeter avec une série de questions assez simples. On peut le commenter en version radio. Alors voilà, qu'est-ce que la laïcité? Réponse A, l'interdiction des religions dans l'espace public. Réponse B, la neutralité de l'État en matière religieuse. Et réponse C, une forme d'athéisme. Si l'on doit amener la réponse, ce serait laquelle pour vous? Ce serait donc la réponse B, la neutralité de l'État en matière religieuse. Bah, ça évoque quoi pour vous si quelqu'un veut le commenter avec ses propres mots?
Alors nous, c'est comme ça qu'ils nous l'ont expliqué. Que la laïcité est un principe qui établit la neutralité absolue de l'État en matière religieuse. L'État n'intervient pas dans le fonctionnement des cultes et les religions n'interviennent pas dans le fonctionnement de l'État. L'État garantit le libre exercice des cultes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Il n'y a pas de religion d'État. Ça, voilà. C'est la laïcité.
Et dans l'État français, il n'y a pas de religion. Donc tout le monde peut avoir sa religion. Vous savez, dans d'autres pays, il y a des pays où on oblige à que les personnes soient soumises à ces religions, à une certaine religion. Nous, en France, nous pouvons choisir notre religion.
Et tiens, moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que les pays, vous savez, vous avez raison, il y a des pays où la religion, c'est une religion étatique, c'est-à-dire que c'est la religion d'État. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, par exemple, il y a des pays musulmans, pour citer un pays musulman, où, la religion du pays, c'est la religion musulmane. Est-ce que vous auriez aimé vivre dans un pays où la religion était instaurée dans l'État, entre guillemets? Est-ce que vous auriez aimé vivre dans un pays comme ça?
Moi, j'aurais pas du tout aimé vivre dans ce genre de pays, parce que personnellement, je suis athée. Je suis pas fermée à l'existence d'un dieu, mais je préfère... Je suis pas une religion. Et le fait qu'on m'aurait obligée à suivre des idées qui soient pas les miennes m'aurait vraiment dérangée et... Personnellement, moi, j'aurais essayé de fuir le pays. J'aurais pas pu vivre dans un pays qui m'enferme l'esprit et où je peux pas penser ce que je veux.
Moi, personnellement, si ça aurait été ma religion, je pense pas que ça m'aurait dérangé. Mais comme je n'ai pas de religion, pareil, j'aurais essayé de fuir le pays et partir pour que je puisse penser ce que je veux et pas que mes enfants vivent dans un monde où peut-être c'est pas leur croyance ou quelque chose comme ça, et pas les obliger à croire, en fait. Si c'est ma religion, ça m'embête pas, mais si ça l'est pas, c'est embêtant.
Alors moi, personnellement, d'un côté, j'aurais bien aimé, mais de l'autre côté, non, parce que je pense que ça doit être très compliqué. Même si c'est notre religion, on a tous un moment où on peut ne pas être d'accord avec notre propre religion. Et je pense que c'est aussi bien que chacun ait ses idées et ça peut nous permettre d'évoluer et d'avoir des débats comme on a là et aussi de pouvoir aussi s'enrichir et de connaître plusieurs cultures.
À noter également que on a cette liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi pour les personnes croyantes, cette liberté de croire à autre chose à un moment donné, de changer de religion. Et ça, c'est important aussi en France et dans les pays laïcs.
voyez, donc c'est intéressant de voir, hein, que on a de la chance quand même d'avoir cette notion de laïcité dans notre pays, parce que regardez, si vous regardez juste au niveau de votre propre famille, si demain vous deviez annoncer dans votre famille, par exemple, que vous renoncez à la religion de vos parents, voyez. Essayez d'imaginer demain dire à vos parents, écoute, non, je ne crois plus en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Comment ça pourrait être vécu dans votre famille si vous deviez annoncer ça? Comment ça serait vécu? Alors, attendez, on va faire le tour, on va voir.
En soi, je pense que ça dépend de l'ouverture d'esprit des parents, du si ils sont pour ou contre, entre guillemets, le bonheur de leurs enfants. Et si, bah, personnellement, je devais annoncer que je crois en un Dieu ou je n'y crois plus, je pense que mes parents, surtout ma mère, réagiraient plutôt bien, étant donné qu'elle souhaite mon bonheur et que tant que je suis heureuse, bah, ça lui importe peu, on va dire.
Pour moi, ma famille n'est pas pratiquante, mais je suis née dans une famille chrétienne avec mes ancêtres qui sont tous chrétiens. Et je pense que ça serait très compliqué pour ma famille d'accepter ça. Je pense surtout du côté de mon papa, ça serait plus dur. Mais je pense qu'il finirait par l'accepter, même si ça serait un petit peu... renier ce que mes ancêtres ont vécu et les principes qu'on m'a enseignés.
Moi, mes parents, ils ont été baptisés, sauf qu'ils ne croient pas. Alors je sais que ils s'en fichent de ma religion. Ils accepteraient dans tous les cas que je suis pratiquante, que je sois musulmane, juive ou chrétienne ou athée. Ils s'en fichent, je reste leur fille, ils veulent mon bonheur. Et si je suis heureuse avec un voile ou n'importe quoi, ils seraient contents pour moi.
D'accord. Et les autres, alors?
Moi, ma famille, en fait, des deux côtés de ma famille, ils n'ont pas la même religion. J'ai un côté qui est très, très, très musulman et un côté qui est très chrétien. Donc, déjà, à la base, c'est assez compliqué. Mais quand j'ai annoncé que je ne croyais pas vraiment la même religion qu'eux, en soi, ils l'ont accepté. Juste, ils ont essayé me pousser à suivre leur religion en quelque sorte, mais à la fois ça a toujours été comme ça. Donc moi, ils savent comment je suis. Quand je suis avec le côté musulman, je fais un peu comme eux, mais même s'ils savent que j'y crois pas forcément. Quand je suis avec le chrétien, c'est pareil, mais en soi c'est pas vraiment un drame. Enfin, juste ils essaient de me pousser parce que selon eux c'est ça qui est vrai, tout ça, donc ils aimeraient que je sois dans le bon chemin, on va dire, mais il y a rien de dramatique, quoi.
D'accord. Un dernier témoignage, non? Alors, juste en fait, en quelques secondes, vous avez résumé un peu ce que c'est que la laïcité, en fait. La laïcité, c'est le fait de pouvoir croire ou de ne pas croire en une religion, voilà. Et vos témoignages, ils sont assez équivoques, hein. C'est-à-dire que ils expliquent concrètement ce que c'est que cette notion de laïcité. Mais là, vous l'avez vu à l'échelle de votre famille, et là, nous, on en parle à l'échelle de la nation.
Alors, si on continue un peu sur ce diaporama, la laïcité à l'école, même principe, hein, il y a trois réponses qui sont proposées. Empêche les élèves de disposer de leur liberté de conscience. Réponse B, interdit de parler de religion dans une école publique. Réponse C, est une garantie pour les élèves, les familles et les enseignants. À la lecture de ça, pareil, même principe, A, B ou C. Voilà. Et on voit bien que... dans la façon d'écrire, les mots sont un peu différents. Empêche, interdit et est une garantie. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, la laïcité, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ce soit à travers les mots de votre CPE ou à travers ceux d'Abelkader Hélen, ce n'est en aucun cas une interdiction, un empêchement, c'est une ouverture, en fait, finalement. Et le fait que l'État ne soit pas partie prenante dans une question de religion permet à chacun de choisir.
D'ailleurs, je vais vous donner juste un exemple. Hein, pourquoi l'État n'est pas contre les religions? Vous savez qu'il y a des écoles confessionnelles. Vous le savez ou pas? Oui, vous savez qu'il y a des écoles catholiques, des écoles juives, des écoles musulmanes en France. Donc quand les parents veulent mettre leurs enfants dans ces écoles, voilà. Donc c'est que l'État n'est pas contre les religions, mais l'État veut que leurs établissements publics soient laïques. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que à un moment donné, cette égalité des uns et des autres soit affichée par vos justement par le fait que vous n'ayez pas de de signes entre guillemets qui rappellent ou qui renseignent sur votre religion. Et ça, je trouve que c'est très beau, c'est très bien parce que demain vous seriez capable de dire oui, mais le prof a dit ça parce que je suis musulmane ou je suis voilà. Et ça, c'est hyper important. Voilà, cette notion d'égalité dans la laïcité, elle est essentielle.
C'est important aussi de que les élèves prennent en compte qu'à aucun moment c'est interdit de parler de religion. Vous pouvez en parler entre vous, vous pouvez nous en parler. On n'interdit pas de parler de religion. Vous pouvez échanger entre vous. Ce que nous on ne tolère pas dans les établissements, c'est de parler de religion pour convaincre l'autre d'intégrer notre religion. C'est ça. C'est pour ça que l'école aussi est. C'est important que l'école soit laïque pour pas pouvoir essayer de convaincre l'autre que ma religion est la meilleure, ma religion est la bonne. Il faut que tu sois de ma religion. Non, vous pouvez échanger entre vous.
Et c'est même inscrit dans les programmes. Alors si l'on part du collège, il y a des heures d'éducation civique et morale, me semble-t-il. Et puis c'est inscrit aussi dans le programme d'histoire. Et malheureusement, des actualités récentes nous ont montré que des personnes n'acceptent pas le fait que l'on parle d'une religion à l'inverse de leur point de vue.
Oui, parce que dans les programmes, on parle de religion par rapport au programme de l'histoire de France. Et ça, c'est important de bien le retenir. C'est que quand on parle de religion en classe, c'est vraiment par rapport au programme de l'histoire de France, l'histoire du pays ou l'histoire d'un autre pays, mais qui est enseigné dans le programme.
Je vais vous poser une petite question un peu brutale. Qui voudrait qu'on puisse demain venir à l'école en voile ou qu'on puisse montrer sa religion à l'école?
Ouais. Alors, bon, voilà. Coup, beaucoup de mains se lèvent.
Ouais. Alors, je veux savoir pourquoi.
Et on va demander pourquoi.
Parce que en fait, ça respecte un peu notre religion, parce qu'il y en a des juifs, des chrétiens, ils portent des croix et personne ne leur dit rien. C'est-à-dire que si quelqu'un porte un voile, en soi, on va rien dire.
Bah, en fait, moi, normalement, théoriquement, le tout signe distinctif religieux est interdit. Donc, normalement, si quelqu'un a une croix, un professeur pourrait lui dire, écoute, faut que tu la caches, tu la mets en dessous, mais normalement, en tout cas.
C'est voilà. Ce qui se passe dans l'établissement.
Voilà. Dans le.
Quand tu as un élève à un signe religieux beaucoup trop voyant, on lui demande de le mettre discrètement.
Mais en soi, je sais pas en quoi ça dérange un voile. C'est comme si on mettait une capuche ou un truc comme ça. En fait, on cache juste nos cheveux.
D'accord.
C'est dans la religion, je sais pas.
Oui, alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que demain, est-ce que tu aimerais voir demain, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu aimerais voir demain, peut-être demain tu vas devenir maman et tu emmèneras tes enfants à l'école. Et quand tu emmèneras tes enfants à l'école, est-ce que tu aimerais voir des enfants de 8 ans avec un voile?
Bah, en soi, ça me dérange pas parce que c'est leur religion. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Je rentre pas dans leur vie. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi, si j'apprends comme ça à mes enfants, si je l'apprends moi, si eux, si les parents ont envie d'apprendre comme ça à leurs enfants, c'est qu'ils leur apprennent.
Moi, je veux dire un peu ce qui me gêne, hein, c'est que je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas religieux par hérédité. Si tu es demain musulmane, catholique, par hérédité, c'est-à-dire parce que tes parents le sont, je trouve que c'est une fausse foi. Parce que elle est aiguillée, tu vois, elle est, alors que normalement, la foi, c'est quelque chose qui se travaille. On apprend une religion, on voit si elle nous plaît, si elle nous plaît pas. Voilà. Mais il y a un travail qui est fait. Là, en l'occurrence, tu l'imposes à une gamine de 8 ans. Je trouve que c'est pas logique. C'est même limite malhonnête parce que tu l'obliges quelque part, d'une certaine manière, tu vas l'obliger à devenir demain religieuse alors que tu ne lui as pas permis de faire son choix de devenir religieuse. C'est ça, en ça que ça me gêne. Et après, c'est aussi après l'image que tu peux donner. Le voile, il me gêne pas. Je l'ai déjà dit. Moi, je vais aux États-Unis, je vais en Angleterre, je vais dans beaucoup de pays. Le voile ne me gêne en rien. En revanche, après, si on parle vraiment de religion, c'est encore autre chose. Tu vois, je veux pas rentrer dans le religieux parce que pour voir si le voile est interdit ou pas, c'est encore autre chose. Mais quelque part, c'est une certaine manière aussi de montrer sa religion, de la et qu'on l'a dit tout à l'heure. Hein, en termes d'égalité, ça pose souci. C'est-à-dire que quand on va te regarder avec un voile, naturellement, on va te regarder comme une musulmane. Et je trouve que c'est un mauvais message qu'on envoie, parce que quand t'es à l'école, je trouve que c'est plus intéressant de te voir comme un lycéen, un collégien, plutôt que de te voir comme une musulmane. De la même manière que si un petit garçon juif avec la kippa vient, je veux pas qu'on le regarde. Naturellement, tous ici, vous vous diriez, la première chose que vous vous diriez, c'est un juif. Et tu peux pas me dire que c'est pas vrai. Dès que tu le verrais, tu te dirais, c'est un juif. C'est la première chose qui te viendrait à l'esprit. Et ça, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous levez la main, je vous mets au défi de me dire que si vous voyez un gamin avec une kippa, naturellement, vous allez dire, c'est un juif. Voilà. Et c'est ça qui renvoie au fait que quand tu as un signe descriptif de ta religion, bah, naturellement, après, on te regarde comme cette religion.
L'école, c'est aussi un moment dans la journée. Un moment dans la journée où vous êtes dans la peau d'élèves. Ici pour apprendre, et chacun est là pour la même chose. Et le portail de l'école, une fois qu'il est franchi et que vous êtes à l'extérieur, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez tant que ça reste dans le cadre de la loi. Et la loi de la laïcité n'interdit pas de porter le voile en extérieur.
Je veux juste revenir sur, avant une autre question, sur ce que tu as dit, et ce qui est important aussi, c'est que l'école est là pour vous apprendre à faire des choix. Souvent, on est prise dans une sphère familiale où on ne peut pas faire de choix. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. On a beau avoir des parents ouverts d'esprit, ou souvent, quand on a une religion à la maison, on doit suivre la religion à la maison. Et ça, sincèrement, c'est pour la majorité des personnes. Et à l'école, on vous apprend à faire des choix, à évoluer comme vous avez envie d'évoluer, à développer votre sens critique. C'est pour ça que c'est important qu'on mette la religion de côté et que vous puissiez avoir un espace où vous pouvez penser autrement. Certes, peut-être pour toi ça te convient comme ça, mais peut-être que pour d'autres c'est une soupape. Se dire, je parle pas de la religion chrétienne, je parle pas de la religion musulmane, comme j'en parle tous les week-ends à la maison. Ouf, là j'en parle plus. Voilà, pour certaines personnes, c'est aussi un... Et c'est important, voilà, qu'on soit là aussi pour vous amener à ça et que chacun évolue comme il a envie.
Alors, au risque de vous choquer, au risque de beaucoup vous choquer, moi, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, je les ai mis donc dans une école catholique parce qu'elle était proche de la maison, en fait. Hein. Donc, ils ont été dans l'école catholique. Et un jour, on m'a demandé s'ils pouvaient aller au cours d'éveil à la foi. Vous voyez, donc l'éveil à la foi catholique. Hein. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, ils peuvent y aller. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que je ne voulais surtout pas, moi, demain, faire en sorte que mes enfants deviennent musulmans, entre guillemets, comme leur père. Non, je voulais qu'ils choisissent, que ce soit leur choix, que ce soit pas quelque chose que j'impose. Voilà, c'est leur choix. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que la foi est plus belle et plus forte quand on la choisit. Et après qu'on choisisse ou pas de croire en Dieu ou de ne pas croire. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que cette vision des choses, vous devez l'avoir. Vous ne devez pas demain, en tant que croyant, si vous êtes croyant ou pas, ou même si vous ne croyez pas, imposer à vos enfants vos propres idées. Et l'école de la République permet cela. Moi, je suis un pur produit de l'école de la République. Moi, j'ai fait beaucoup d'articles où je dis, je remercie l'éducation nationale parce qu'elle m'a permis de devenir ce que je suis. Avec la possibilité de réfléchir, ma capacité de réflexion est très forte. Et c'est pas de l'ego, hein, mais c'est vrai, j'ai une capacité de réflexion très forte. Je prends beaucoup de recul à réfléchir sur les choses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je mets la raison au-dessus de tout. Je mets la raison au-dessus de ma croyance, au-dessus. Je mets la raison. La raison, c'est la chose la plus fondamentale dans ma vie parce qu'elle me permet justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre beaucoup de hauteur. Et moi, si j'avais un message à vous donner, c'est celui-là. C'est surtout garder toujours. Vous savez, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur la radicalisation. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que tous les gamins qui sont partis, tous sans exception, ils avaient perdu la raison, ils étaient dans l'émotion et ils étaient dans la certitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la certitude, penser à la maison dans le cerveau. Voilà. Et ça, pour moi, c'est fondamental que vous puissiez aussi vous dire qu'on a une chance incroyable de vivre dans ce pays. Vraiment, hein, je pour vous dire, hein, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. On a une chance incroyable de vivre en France parce que la France nous permet justement de devenir des individus en conscience. C'est-à-dire qu'on est capable de réfléchir de nous-mêmes et on est capable aussi de choisir. Et ça, c'est hyper important. On est capable de choisir. Ce mot « choisir », c'est un mot qui n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour vous, mais il revêt une importance incroyable, surtout quand vous aurez, j'espère, la chance de voyager. Vous verrez que ce mot « choisir », eh ben, c'est un des plus beaux mots qu'on puisse avoir, en tout cas dans la langue française, et qu'on puisse avoir aussi en termes de conscience.
Choisir et aussi se réunir ici. On va terminer cet enregistrement autour de cette question de la laïcité à l'occasion de cette journée nationale de la laïcité. Un espace où finalement on se retrouve ensemble au même endroit. On peut échanger. Alors bien sûr, il est difficile de prendre la parole à travers le micro. Je remercie tous ceux qui l'ont fait et j'invite tous les autres qui n'ont pas forcément exprimé leur point de vue, de discuter aussi pendant un petit moment après l'enregistrement. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission-là. Poursuivre ces réflexions autour de ce vivre ensemble, en fait. On va changer ce terme-là, laïcité et vivre ensemble. Merci Madame Mathieu, CPE, merci le personnel enseignant qui a pu libérer leurs élèves le temps de cet enregistrement. Et merci Abdelkader Relan d'être venu encore une fois sur l'antenne de Radio Rondaine pour échanger avec ces jeunes. Et merci à vous tous et toutes, lycéennes et lycéens, d'avoir participé à cette émission.
Merci.